Mesdames et messieurs, bonjour, prenez place. Prenez place pour cette rencontre consacrée à l'architecture et à l'urbanisme. Je prends la suite de Xavier Rozan qui a très bien travaillé en tant que secrétaire de rédaction de la revue Le Festin. Je m'occupe de la revue et je m'occupe également de certains hors-série, dont le Bordeaux Métropole numéro 2 qui vient de paraître et qui est l'objet de cette rencontre, avec les cahiers de la métropole bordelaise qui sont le fait de l'AURBA, l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine. Et nous allons essayer de croiser les expériences, nous allons essayer surtout de croiser les contenus, puisque ces deux publications sont d'une richesse assez inégalable en matière d'urbanisme et très complémentaire. Le panel accueilli ce soir est également riche. Je me permets de vous les présenter un par un. Je laisse s'installer les derniers arrivants. Alors, nous avons donc à cette table Jean-Marc Hoffner, qui est directeur général de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine, très important, et qui est de ce fait directeur de la publication et de la rédaction des cahiers de la métropole bordelaise, de son petit nom Cambo, sixième opus. À sa droite, nous avons Bernard Blanc, qui est directeur général d'Aquitanis depuis 2008. Aquitanis étant l'office public d'habitat de la CUB, et lequel est intervenu, est une personne ressource pour la revue Bordeaux Métropole numéro 2. Il a bien voulu répondre à une longue interview et nous retracer l'historique d'Aquitanis, qui a traversé le siècle, qui a fêté ses 90 ans en 2010, qui a connu divers sigles, diverses dénominations, divers statuts, et qui nous en parlera par la suite. À sa droite, nous avons Marc Saboya, qui est historien de l'art, contributeur de longue date du Festin, et spécialiste de toutes les questions que nous allons aborder, mais qui se consacrera pour la cause très spécifiquement un article qu'il a rédigé pour le Bordeaux Métropole numéro 2, consacré à la maison Lemoine de Floirac, un exemple d'architecture qu'il nous dépeindra dans le détail. Et pour suivre, Benoît Hermé, ex-rédacteur en chef du Festin, contributeur fidèle depuis, qui a rédigé deux articles dans Bordeaux Métropole numéro 2, l'un consacré à la ZAC Bastide-Niel et l'autre au musée de la création franche à Bègles. Je n'oublierai pas ceux qui ont été relégués au premier rang, faute de place sur l'estrade, puisque nous avons au premier rang Sandrine Vossel et Vincent Schoenmakers, qui sont de l'AURBA et qui sont donc les concepteurs. Non, qui ne sont pas de l'AURBA tous les deux. Ils ont rédigé ce dossier sur l'eau du Cambeau numéro 6. Vincent Schoenmakers est, lui, membre de l'AURBA, urbaniste. Sandrine Vossel est, elle, géographe et maître de conférences à Bordeaux-Montaigne. Et nous parlerons avec eux dans le détail de quelques informations parmi les nombreuses pépites que recèle ce dossier sur l'eau. Je vais vous les présenter de façon générale. Bordeaux Métropole, pour commencer par ma maison, Le Festin, la maison d'édition. Bordeaux Métropole, ça n'est que le deuxième opus. Il intervient deux ans après le premier Bordeaux Métropole et c'est une photographie des avancées de la ville, de la métropole, de tous ces grands projets structurants, mais une photographie assez extensive, assez exhaustive. Nous consacrons autant à l'architecture, au bâti, à recenser le bâti qui fait la ville, que les grands projets, tout en faisant quelques échappées-belles dans le domaine de la gastronomie ou dans le domaine des arts, comme à l'habitude de le faire Le Festin. Et en ceci, Cambo complète idéalement le propos dans la mesure où c'est une véritable somme d'informations mise à la disposition du public et donc vulgarisée également, et qui s'attache dans le détail à réunir les meilleurs spécialistes pour proposer Avec un dossier principal et des rubriques très diverses, une analyse des mutations, tant sous la forme de préconisations que de constats, et qui procure une vision assez détaillée hein, de la chose urbaine, qui est elle-même très riche, hein, puisqu'on est à la croisée de toutes les disciplines. Et pour commencer, j'irai dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, quasiment. Hein, nous parlerons des contenus... certains des contenus pour lesquels vous avez bien voulu participer, vous avez été interviewé. Nous terminerons vers 6h30 après pour laisser place à une dégustation. Nous avons ici des gens du château Bechevel qui nous proposent du vin, vous aurez du fromage. Donc il faudra limiter le propos et je vais me limiter. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'eau pour commencer, me demande-t-on. Je vais donc commencer par me limiter moi-même, en donnant la parole à Jean-Marc Hoffner, et en lui demandant... tout simplement quels sont les objectifs poursuivis pour une agence d'urbanisme telle que la vôtre. Quels sont les objectifs des cahiers de la métropole bordelaise? En quoi consiste la démarche et qui doit rejoindre les missions de l'AURBA?
Alors, j'ai un objectif secret qui n'est pas encore atteint. C'est effectivement de trouver un château qui veuille bien parrainer la revue. Donc, je lance un appel parce que je suis très jaloux. Il y a Arc en Rêve, ils ont Chasplin. Je vois qu'Amiral Bechevel, là, va couler à flot. Donc, voilà, c'est important. Au-delà de ça, on dit beaucoup aujourd'hui qu'il faut que la ville soit une question citoyenne, qu'il y ait des débats, que chacun puisse donner son point de vue. C'est tout à fait justifié. Et en même temps, l'urbanisme, bah, c'est pas si simple que ça. C'est pas de l'architecture, on y reviendra peut-être. L'urbanisme, c'est certes parfois construire, mais c'est pour l'essentiel du temps faire fonctionner l'existence et s'intéresser aux questions d'eau, aux questions de mobilité, aux questions d'énergie. Et c'est compliqué tout ça, je crois qu'il faut l'admettre. Et donc, ce fameux citoyen éclairé qui est censé pouvoir débattre et participer à la construction collective de la ville, il faut qu'on lui donne de la matière. Et c'était, je crois, le premier objectif de la revue, à travers en particulier des rubriques qui sont assez formatées. Bon, moi, j'ai été beaucoup prof avant d'être ici, donc c'est peut-être une petite déformation, mais je crois qu'il y a la bonne pédagogie à faire sur beaucoup de sujets. Et quand les chargés d'études de l'agence d'urbanisme ou les universitaires qui nous accompagnent veuillent bien s'obliger un peu à avoir un discours clair, à expliquer les mots compliqués, on arrive, me semble-t-il, à diffuser ce savoir sur l'urbanisme. Oui, donc c'était vraiment le premier point.
Vous avez des rubriques intitulées Impertinence, Zoom, Controverse. Le but est vraiment de mettre un peu de grain dans la réflexion, dans la réflexion qui vous occupe.
Voilà, ouais. Du grain dans la réflexion et puis aussi les fondamentaux. Par exemple, on a une rubrique qui doit s'appeler chiffres ou chiffrage. Voilà, on est dans Sud-Ouest, on va voir un chiffre, on ne sait pas trop finalement ce que ça veut dire, ben, il faut l'expliquer, il faut aller un peu derrière. Donc c'est vrai pour le citoyen éclairé, et puis je vais vous délivrer un scoop, c'est vrai aussi pour les élus. Les élus ne sont pas tous forcément omniscients, et ils ont besoin aussi, quand ils arrivent dans une fonction d'adjoint à l'urbanisme, etc., ben de se mettre aussi un peu dans cette culture qu'ils ne connaissent pas forcément.
Vous êtes à la fois à l'AURBA préconisateur, observateur. Quel est votre rôle en quelques mots?
Oui, alors ça fait partie des missions des agences d'urbanisme. Hein, il y en a une cinquantaine en France. Alors on est on a un slogan très prétentieux, c'est les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles. Oui. Donc les pieds dans la boue, c'est de faire le plan local d'urbanisme, c'est de faire une étude urbaine pour comprendre comment Bordeaux Nord va se développer. Et puis, c'est aussi faire de la prospective, mettre en avant des thématiques nouvelles et aider effectivement tous nos partenaires et toutes les populations avec lesquelles on est en contact à participer à ce mouvement.
De la diffusion, de la mise en réseau, je crois que c'est une notion à laquelle vous êtes attaché, puisque dans votre éditorial du Cambo, vous parlez de l'autosuffisance, de cette tendance qui arrive à vouloir être autosuffisant en énergie, avoir sa propre énergie, son propre jardin partagé, etc. Et vous mettez en garde à la fin en parlant de ces nécessaires interdépendances dans la société civile. Vous reprenez un peu cette thématique quand vous analysez la fusion des trois régions qui nous attend, et en parlant à la fin de votre rubrique titrée « Le sens de l'événement », là bien titré, en parlant également d'interdépendance. Et donc, vraiment, c'est une notion que vous essayez de diffuser, y compris dans ce Cambo, en diffusant au grand public, en diffusant cette idée que les choses sont plus compliquées qu'elles ne le sont en matière d'urbanisme.
Voilà, et puis cette affaire d'interdépendance, elle nous tient à cœur à l'agence d'urbanisme. Souvent, on voit la ville comme un puzzle. Et puis, les cartographes à l'ancienne, ils font des aplats de couleurs et des frontières. Alors que la ville, elle n'a pas été faite pour ça. La ville, elle a été faite pour que les individus interagissent entre eux. Et donc, elle n'a pas été faite non plus pour forcément manger sa tomate à soi, boire son eau de pluie, et ce qui peut être très bien. Ouais. Mais si on n'oublie pas qu'on a inventé les villes pour autre chose. Voilà, pas pour être chez soi, mais plutôt pour parler avec le voisin et parler avec même des gens beaucoup plus loin. Voilà.
Et dans cette perspective, parlez-moi un peu d'eau, alors. Pourquoi avoir choisi ce...
Un peu d'eau, alors parce que au-delà de cette ambition d'acculturation, de vulgarisation sur les questions urbaines, il y a aussi cette ambition pour la revue d'accompagner le développement de la métropole bordelaise. Peut-être que quand on est ici, on ne s'en rend pas compte, mais d'abord, Bordeaux a la chance d'être dans le bon côté de la diagonale, ni au nord ni à l'est, et d'être parmi les villes qui se développent, qui croissent. Il faut bien se rendre compte que, non seulement en Europe, mais en France aussi, il y a beaucoup de villes qui perdent des habitants, qui ne sont plus dans une phase de développement. Donc, on a cette chance-là à Bordeaux, en Gironde. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'accompagner ce grand mouvement, le passage à la métropole aussi dans quelques jours par cette revue, et de faire comprendre peut-être qu'on est, on aime bien les transitions, mais qu'effectivement, on passe peut-être d'une petite ville à une grande ville. Même si on parle de grande ville à visage humain, etc., il se passe bien quelque chose qui est de l'ordre d'une urbanité qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître à Bordeaux. Voilà. Donc il y a cet aspect. Et puis, effectivement, l'urbanisme, c'est, je le disais au démarrage, c'est plein de choses. C'est l'énergie, c'est l'espace public, c'est le banc public, tout ce qui est lié aujourd'hui au développement durable. C'est évidemment les questions d'habitat et de services. Donc ça va beaucoup plus loin. C'est, d'une certaine manière, la vie quotidienne dans son ensemble. Et l'eau, c'est une préoccupation majeure partout. Et à Bordeaux, elle est à la fois très présente et très oubliée. Et finalement, on en perd un peu le sens des enjeux qui restent extrêmement forts. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant, avec nos spécialistes de l'affaire, puisqu'on a tenu aussi dans Cambo à travailler régulièrement avec des universitaires, de traiter de ce sujet. Alors, comme avec le festin, on a compris que la couverture, c'était importante, on a mis l'Hermione, qui n'a absolument rien à voir, évidemment, avec, avec le contenu du dossier. Oui. Voilà. Mais normalement, alors je fais le fier, normalement, je suis sur la photo, parce que j'ai eu le privilège de monter sur l'Hermione entre Pauillac et Bordeaux, à l'arrivée de Bordeaux. Voilà.
Oui, une image partagée par le Bordeaux Métropole. Nous n'avons pas non plus résisté à mettre l'Hermione en pleine page. Oui. pour filer la conversation sur ce dossier sur l'eau, je vais passer la parole à Sandrine Vossel, pour commencer, qui va nous parler de ce dossier qu'elle a mitonné avec Vincent Schoenmakers, et nous présenter nous présenter les présupposés de ce dossier et en quoi Bordeaux est-elle une ville d'eau? En quoi l'eau a-t-elle marqué son identité?
Merci de m'avoir invité. Alors, quelques mots pour donner justement la réponse à ce X ou pas. Alors, on a choisi de ne pas le mettre pour ne pas faire de confusion avec une ville qui serait une ville thermale, puisque ville d'eau, souvent, ce sont les villes thermales. Mais il y a quand même bien des eaux dans ce dossier. On a essayé de faire un peu le tour de cette question de l'eau à Bordeaux. Alors, effectivement, sur la photo, le fleuve, qui suggère aussi les grands voyages vers l'océan, vers l'Atlantique, enfin dans l'Atlantique, vers l'Amérique, mais on est resté sur la métropole. Donc, depuis l'eau du fleuve, l'eau visible, invisible, l'eau qui est présente dans le sous-sol, l'eau qui sert d'approvisionnement pour l'eau potable, les nappes profondes, très précieuses, qu'il faut préserver, notamment dans une logique métropolitaine, hein, avec un projet de croissance forte de l'agglomération. Ce projet métropolitain s'inscrit dans un cadre où l'eau est présente comme une contrainte, puisque depuis toujours, la ville s'est mise sur le bord du fleuve, sur des terrasses alluviales, mais très vite, on va tomber sur des zones de marée, de marécage, qu'il a fallu drainer. Donc l'eau est présente aussi comme une contrainte. Et du coup, cette eau présente a marqué l'identité de la ville, marqué les paysages. Donc Vincent Schoenmaker insistera un petit peu plus sur la manière assez technique par lesquelles on va voir finalement, à travers le paysage urbain, la place, la trace de l'eau. Plus généralement, je vais continuer avec ces formes d'eau. Donc on a l'eau des marais, l'eau du fleuve, l'eau des petites rivières urbaines. Et souvent, c'est un aspect là aussi méconnu, donc d'où le mot de secret. On a essayé de lever un certain nombre d'éléments qui sont méconnus et on a voulu les porter à la connaissance de tous. Il y a énormément de petites rivières qui vont être des affluents de la Garonne, donc qui convergent tous vers le centre de la ville et qui ont été la cause d'inondations importantes dans les années 80 et qui ont obligé la communauté urbaine à mettre en place une politique de lutte contre les inondations.
Donc l'eau, c'est très grande ampleur, hein, voilà. D'ailleurs, hein, ça a été assez exemplaire à l'échelle nationale.
C'était pour Bordeaux, pour la CUB, la principale politique d'investissement pendant 15 ans. C'était aussi effectivement une politique qui a été identifiée comme, et qui est toujours identifiée comme étant un modèle, dans le sens où on a des investissements. C'est très technologique, hein, la gestion de l'eau, l'agglomération. Alors, tous les bassins versants de la rive gauche surtout, mais aussi de la rive droite, qui sont surveillés avec des pluviomètres. On regarde le niveau de l'eau. On a des bassins de retenue enterrés en plein air. On a tout un dispositif télécontrôlé en permanence, 24 heures sur 24, depuis un centre unique. Et ce centre de télécontrôle Ramsès, qui a déjà... on est passé à Ramsès II et puis qui continue encore d'évoluer, fait l'objet de visites de délégations du monde entier qui viennent à Bordeaux. C'est un centre qui est un centre communauté urbaine de Bordeaux avec la Lyonnaise des Eaux qui est le délégataire sur le contrat d'assainissement, puisqu'il y a aussi un côté très technique qu'on a mis dans le dossier, un dossier technique donc par un certain côté, mais aussi on a voulu montrer comment l'eau était... un élément fort dans l'identité bordelaise, notamment par le côté ville basse.
Oui, et vous me disiez que vous aviez dû vous restreindre un peu tant vous avez découvert, approfondi des choses. Parce que de façon générale, ce que j'ai pu constater, c'est que ce dossier fourmille d'informations qui disent la ville et que l'eau a véritablement façonné Bordeaux. Je ne sais pas si peut-être que Vincent Schoenmaker peut d'ores et déjà en parler. On peut peut-être continuer le jeu de chaise musicale sans forcément chanter. Hein. Vous avez rédigé une page que j'ai trouvée très intéressante où vous parliez de ce maillage d'échoppes, de maisons de ville jusqu'aux grands ensembles. On en terminera peut-être par là pour ensuite changer de sujet, qui ont été contraints par le fait que Bordeaux regorge d'eau.
Bonsoir. Oui, ça c'est quelque chose effectivement, alors que les Bordelais anciens connaissent.
Oui.
C'est quelque chose que les Bordelais anciens connaissent, les échoppes, etc. Mais c'est vrai que l'objectif, comme on disait, c'est d'essayer d'amener de nouvelles personnes à lire un petit peu ce qu'est la ville, etc. Donc, on s'adressait à la jeunesse. Qui ne connaît pas ces aspects-là? Et l'exemple des échoppes, par exemple, c'est, je prends souvent cet exemple aussi, quand vous prenez au nord des Chartrons, le secteur entre le Grand Parc, la rue Camille Godard, rue Frère et les jardins publics, si on prend par exemple une carte qui date de 1870-1880, on voit bien, si vous voulez, tous les petits fossés qui existent, qui sont... donc on a drainé, tout à l'heure Sandrine disait qu'on drainait, donc on a bien vraiment ce réseau dense de fossés, etc. Et au fur et à mesure, donc à partir de la fin du 19e, et puis les années 10, les années 20, les années 30, etc., on a construit ces échoppes, on voit quand même quelque chose qui est vraiment flagrant, une juxtaposition du réseau de rues qui s'est posé sur le réseau des ruisseaux. Donc souvent, ça s'est fait par comblement, etc. Et ce que les gens qui n'ont pas la chance de connaître les quartiers des shops, etc., si on n'a pas d'amis qui y habitent, on voit une petite maison basse, mais in fine, derrière, on s'aperçoit souvent que le jardin, il est plus bas, il est en contrebas.
Élevé, ouais.
Donc ce que l'on perçoit comme étant un rez-de-rue, donc l'étage en rez-de-chaussée par rapport à la rue, derrière, on est en étage. Et ça, c'est une adaptation typique, puisque... Il fallait, si vous voulez, le terrain naturel reste la partie basse qui est derrière en cœur d'îlot. Il faut se dire que la rue, elle, a été remblayée. Et les shops a été adapté. On a rehaussé, il y a toujours les petites marches pour entrer, les petites marches dans le palier, etc. C'est pour lutter contre les inondations. Et ce qui a été oublié, c'est qu'à partir des années, on va dire 80, quand naturellement, il y a eu un renouvellement des propriétaires dans les échoppes, on a besoin, même si on est moins nombreux maintenant à habiter dans une maison, Bordeaux est assez caractéristique, et on a à peine une personne et demie qui compose un ménage, pour autant, on a besoin de plus de surface. Voilà, c'est comme ça, les normes de confort sont différentes. Et donc, toutes ces échoppes, pour les agrandir, on a souvent, si vous voulez, on s'est approprié la partie rez-de-jardin. Donc, on y a fait le salon, la cuisine, des fois, on y a fait les chambres, etc. etc. Ce que l'on oublie, c'est que la partie rez-de-jardin a toujours été inondable et un jour ou l'autre, on peut toujours effectivement se retrouver inondé. Ça, c'est très important. Alors, il y a toujours le petit jeu avec une petite phrase qui a été mise. Effectivement, souvent, ces travaux ont été faits sans être déclarés. Donc, le jour où il y aura une grosse catastrophe, on ne sait pas si les assureurs... Parce que légalement, quand on fait les travaux, il faut le dire. Et voilà, peut-être qu'aussi, on aura ce genre de petit problème-là. Donc ça, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas, si vous voulez, la tradition historique de l'échoppe bordelaise ne le perçoit pas toujours. Et on a très vite évoqué aussi la façon de construire, par exemple, le Grand Parc, les cressonnières de Luz. Donc c'était des choses, c'était des marais, c'était voilà, des cressonnières. Et on a fait, de façon très très rapide, le parallèle entre le fait de devoir construire sur des gros piliers que l'on enterre, avec le fait que la cathédrale, donc, qui est dans le cœur de Bordeaux, a elle-même déjà, comme à Venise à l'époque, etc.,
cathédrale Saint-André,
voilà, oui. Sur plomb. Voilà. Oui. Et des techniques que l'on retrouve exactement au stade, on en a l'illustration ici. Donc le stade, il est construit sur des immenses piliers. L'opération Ginko, c'est la même chose. Oui. Tant et si bien qu'à un moment, les promoteurs s'interrogeaient, parce que pour le coup, Ginko, il y a eu un très fort coup, si vous voulez, pour faire tout ce qui est sous-bassement, etc. Donc ça compte quand on est dans un écoquartier. Après, il y a certaines techniques. Si on ne veut pas avoir un mètre carré trop élevé à l'achat, mais il a fallu après revoir certaines choses. Donc Bordeaux est construite sur l'eau. Oui. Les immeubles 18e sur les quais, les néo-bordelais l'oublient. Quand on s'installe sur les quais, la première chose que l'on fait, c'est mettre le vélo et puis quelques bricoles dans la cave. Et puis patatras, première occasion, ne serait-ce que marée montante un peu plus soutenue de la Garonne. Terre battue, ça remonte. Là, il y a tout qui flotte dans la cave. Voilà. Donc, quand on n'a pas l'histoire, quand on ne le sait pas, donc, c'est du pragmatisme. Bordeaux a toujours su composer avec l'eau. Bon. Ça, c'est important.
Oui.
Et maintenant, on continue. On a les techniques. Les Néerlandais ont les techniques. Il y a des tas de pays qui ont les techniques, etc. Maintenant, les projets urbains, ce sur quoi on travaille, c'est plutôt de composer avec les nouvelles règles. Et ça, c'est un article aussi qui en parle. Le projet urbain bordelais est-il soluble dans l'eau? Parce qu'on s'aperçoit que, outre les contraintes techniques, maintenant, les projets... Je crois, monsieur, donc vous aviez fait un article sur la ZAC...
Bastille-Niel, oui.
Voilà, Bastille-Niel. Bon, mais ça, c'est l'exemple type où, pendant des années, il faut négocier, il faut voir... On a une très forte instabilité de la règle en France. Ça, ce n'est pas un scoop, on le sait. Il n'y a pas que les impôts, il y a tout le reste qui bouge tout le temps. Donc, à chaque fois, le temps politique, le temps de maturation des projets est rattrapé. Et patatras, il y a de nouvelles règles. Donc, on repart non pas à zéro, mais on fait marche arrière. Il faut tout réintégrer, etc. Et le projet Brazza en est l'illustration. Entre les premiers projets Brazza, puisque Brazza, c'est aussi en zone inondable, bien sûr, entre les premiers projets et le projet qui est en train maintenant d'être lancé, on n'a pas non plus du tout les mêmes présupposés techniques, etc.
Bien, je vous remercie. Vous parliez tout à l'heure de Grand Parc. J'en profitais pour rebondir et passer à Bernard Blanc, directeur général d'Aquitanis. Vous avez bien voulu nous répondre pour une longue interview qui revient en photo et en texte sur les nombreuses réalisations de l'initiative d'Aquitanis qui, aux origines, s'appelait, je cite, vous étiez office public d'habitation à bon marché de la ville de Bordeaux, et vous avez connu donc le développement, Aquitanis a connu des évolutions, et le bâti également social a connu des évolutions extraordinaires finalement, hein, les conceptions, etc., en voulant sans cesse être moderne. Et d'ailleurs, dans cette interview, vous dites qu'il n'y a pas plus moderne que les grands ensembles, si le terme, si tant est que le terme soit encore d'actualité, que le Grand Parc ou la Benauge, qu'il n'y a pas plus moderne que ces réalisations. Et vous faites référence à des réalisations que vous chapeautez maintenant. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer en quoi Aquitanis est moderne et comment vous appliquez cette modernité en matière de logement social?
Merci, bonsoir. Aquitanis est moderne parce que dans ce numéro 2 de Bordeaux Métropole, nous sommes quasiment à toutes les pages. Donc c'est bien un signe de vitalité.
C'est vrai, et donc, c'est vrai, c'est vrai.
La vieille dame HBM de 1920, ou le vieux monsieur, d'ailleurs je ne sais pas du tout comment un officier, si c'est un garçon ou une fille, bon, c'est peut-être les deux aujourd'hui, hein. Est présent partout. Vous avez vu, vous verrez dans ce... Alors, c'est en ça, et je pense pour ça, c'est un des grands intérêts de ce numéro 2, hein, parce que oui, vraiment, on montre bien toute la production, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs. Vous verrez, il y a toute la partie sur l'architecture, où nous sommes très présents avec des bâtiments assez emblématiques, que ce soit dans le tertiaire ou que ce soit dans l'habitat. On est aménageur de Bastignelles, dont on va parler l'heure. Et effectivement, la question de l'eau est extrêmement importante sur ce site. Vous avez un papier extrêmement approfondi aussi sur Ginkgo, sur l'écoquartier, où nous sommes un des trois promoteurs extrêmement présents sur ce site aussi. Et il y a peut-être juste la maison Lemoine qui nous a échappé. On la visite, elle nous intéresse. Voilà. Alors, c'est assez, et je tiens à remercier le courage quand même du Fessin, parce que accepter de faire 5 pages sur le logement social, c'est pas rien, parce qu'habituellement, c'est pas un sujet dont on aime beaucoup traiter, mais simplement parce qu'ils se sont pas trompés, avec Delphine Cossé-Douade, qui a été un peu la meneuse du jeu dans cette interview et dans cette idée de donner cette présence du logement social dans ce numéro. C'est parce qu'effectivement, l'office HBM à l'origine et Aquitanis aujourd'hui est très présent dans l'histoire de la ville de Bordeaux et dans l'histoire de la métropole, mais surtout dans l'histoire de la ville de Bordeaux. Ouais. Et avec aujourd'hui, on reviendra à une question extrêmement moderne qui est évoquée dans le numéro de Cambo. Moi, qui m'a absolument passionné, parce qu'on est complètement en phase par rapport aux réflexions que nous menons, nous, en tant qu'aménageurs, constructeurs et gestionnaires. Dans le fond, on a tendance à prendre, dans la modernité actuelle, la question de l'eau comme un risque. C'est pour ça qu'on a un plan de prévention des risques d'inondation. Et nous, on a tendance à dire que non, c'est un état de nature. Et que peut-être que l'aménagement et l'urbanisme et la construction et l'architecture doit aujourd'hui réapprendre à faire avec. Ça vient d'être très bien expliqué sur ce qu'étaient les shops, même si on n'en a plus tout à fait l'usage bien réglé avec le site et avec la présence de cette eau. Nous avons l'ambition maintenant d'être extrêmement modernes en proposant de construire avec l'eau et non plus contre l'élément naturel qu'est l'eau, entre autres choses. Hein. Alors, Aquitanis, c'est un organisme d'une étonnante modernité parce qu'effectivement, Il a participé de ce qu'on a appelé la période moderne de l'architecture en France, donc ça, c'est pas rien. Et il me semble que la séquence, elle n'est pas fermée encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin de la période dite moderne en architecture. Le Grand Parc, les grands ensembles en sont un des éléments dans le paysage urbain, indéniablement dans toute la France et sur la métropole bordelaise, notamment les quatre grandes communes de Lormont, Senon, Floirac, et puis la quatrième Bassins. Voilà. Et le Grand Parc à Bordeaux, les Aubiers, Carl Vernet, La Benoche sont des cités emblématiques de ce qu'était la modernité à l'époque. Nous, à l'époque, en 1920, quand la ville de Bordeaux, comme c'est le cas partout en France, décide de créer son office d'habitat à bon marché, c'est pour faire une offre de logement moderne à des personnes qui ont des revenus du travail et qui ont besoin de se retrouver dans un habitat confortable. Parce qu'effectivement, sur les cressonnières de l'époque du Grand Parc, il y a des taudis, il y a des petites cabanes. Mériadec est une cité où il y a aussi un habitat insalubre, et donc il faut démolir, reloger. Et Aquitanis a participé avec la Caisse des dépôts et consignations et avec une société, une SEM, qui avait été créée de toutes pièces par la ville de Bordeaux à l'époque, a été l'opérateur, donc, en deuxième rang au début, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis après en opérateur direct, de cette modernité de la ville de Bordeaux, qui, dans son urbanisme le plus évident, s'appelle Mériadec et le Grand Parc, par exemple. Donc ça, c'est la séquence la plus moderne d'un office. Et effectivement, quand on regarde de près, parce que nous sommes en train de réinvestir très fortement le Grand Parc, alors avant on appelait ça réhabilitation, moi j'appelle ça régénération, puisque dans le fond, très simplement et avec beaucoup d'humilité, le travail qu'on fait sur plus de 2300 logements, c'est de les remettre dans les conditions du moment où on les a livrés. C'est-à-dire que quand on les a livrés dans le tout début des années 60, la fin des années 50, voilà, tout le monde faisait la fête autour de l'immeuble. Tout le monde faisait la queue pour habiter là parce que pour la première fois, le Bordelais accédait à un logement très confortable. À l'époque, entre les années 50 et 60, 6% de la population bordelaise seulement avait accès à un logement qu'on appelait moderne, confortable. Et d'un seul coup, 4000 logements mis sur le marché sur une période d'une dizaine d'années. Et quand on regarde, nous, maintenant qu'on les réinvestit avec ce système de régénération, on prétend juste revenir aux qualités d'origine. C'est-à-dire qu'il y avait tous les éléments de ce qu'on met dans un écoquartier. C'est-à-dire que nous, tout notre argumentaire commercial, marketing, pour vendre Ginkgo, par exemple, on le trouvait déjà à l'époque pour le Grand Parc, dans toute la publicité, les promotions qui étaient faites. Oui. Venez vivre dans un parc, amenez vos enfants vivre là parce qu'ils auront le bon air. Les technologies et les matériaux de construction étaient extrêmement modernes. On met en œuvre pour la première fois le chemin de grue. On invente le béton caverneux qui, encore aujourd'hui, a des propriétés d'isolation phonique et thermique remarquables. Oui. Et donc, on est à la mode de toute la modernité et on fait venir dans une joyeuse mixité sociale toutes les classes à l'époque existante dans la ville de Bordeaux.
Un discours qu'on retrouve pour Ginkgo, par exemple,
et
maintenant.
Et oui, exactement. Et donc on veut de la mixité, on veut du parc. Le plus grand parc habité de Bordeaux reste, et je pense restera encore longtemps, celui du Grand Parc, de la cité du Grand Parc. Et donc c'est extrêmement moderne. Mais il n'empêche qu'on a vécu à un moment donné de la fin du modernisme. Alors, ça s'est appelé le post-modernisme. D'ailleurs, on n'en est pas sorti de ce truc. Alors, pour le coup, il faudrait que l'agence d'urbanisme se mette un peu au boulot pour qu'on puisse sortir du post-modernisme. On ne sait pas quoi, à autre chose. Et dans ce post-modernisme-là, on a vu qu'une, il me semble, pour nous, du côté du logement social, du côté de la construction, c'est un peu l'épuisement des valeurs des années 50-60. C'est-à-dire qu'on est éreinté, on ne croit plus en grand-chose. Ce confort et cette modernité-là, on l'a usée, elle est obsolescente, elle n'a plus de charme, elle n'a plus de valeur, elle n'a plus d'attrait. Et on veut passer à autre chose. Et notre Grand Parc, par exemple, va s'appeler du doux nom de cage à lapin. Ça, vous l'avez tous connu, c'est bien dans l'inconscient. Et si les Bordelais, à un moment donné, ont eu un désamour avec ces grandes cités comme Karl Vernet, le Grand Parc, la Benauche, et on ne parle pas des Aubiers, et on ne parle pas des grands ensembles des Hautes-Garonnes, c'est parce qu'il n'y avait plus cet attrait et qu'on a eu l'attrait à ce moment-là, grâce à l'impulsion de l'État, pour la petite maison et le lotissement en périurbain. Et c'est comme ça que nos populations les plus aisées sont parties, avec l'aide de l'État, dans l'APL à l'accession, acheter des petites maisons. Et puis parce que derrière aussi, les grands groupes de la promotion voulaient faire autre chose, parce qu'il y avait une loi qui interdisait de construire des ensembles de plus de 700 logements. Donc il fallait trouver des marchés et on s'est développé à faire une nouvelle offre de pavillonnaires. Mais le pavillonnaire, c'est toute notre meilleure, entre guillemets, population qui a accédé à la propriété et resté en géostationnaire, les pieds dans la gadoue et la tête pas du tout dans les étoiles, nos habitants des grands ensembles, quoi. Alors aujourd'hui, la modernité, c'est quoi, puisque, ou la post-modernité? Mais moi, j'ai pas envie d'être post-moderne, parce que je ne sais pas ce que c'est que ce non-lieu. Et donc, je pense qu'on a intérêt à rester moderne. Et la modernité pour Aquitanie, c'est de faire ce qu'on fait depuis maintenant une décennie, 15 ans à peu près. C'est de faire une sorte de transition vers une approche beaucoup plus raisonnée, hein, de l'aménagement et de l'acte de construire. On a des vrais défis. Et un des défis, moi, qui m'intéresse le plus, c'est, étant donné qu'on construit encore et qu'on aménage beaucoup sur Bordeaux, c'est la question de l'eau, la présence de l'eau. On a une première expérimentation sur la Benauche. Vous le verrez dans le dossier. Je vous invite vraiment à l'acheter rien que pour voir cette petite maison assez extraordinaire. Et si je ne fais pas le boulot, vous me le dites. Hein.
Vous le faites admirablement.
En page 25, alors, qui s'appelle VIM. On lui a donné ce petit nom de code. Non, c'est pas dans Cambo, c'est dans Métropole.
Attendez, elle est ici.
Moi, je suis VRP de... Mais il faut... les deux vont ensemble. Voilà. D'ailleurs, ils feront un prix pour les deux. Ils nous l'ont promis. Hein
oui, attendez.
Et donc, vous verrez qu'à la page 25 de Métropole Bordeaux, Bordeaux Métropole, vous avez une petite représentation de la nouvelle façon pour Aquitanis de s'adapter et d'assumer une forme de transition dans l'acte de construire et d'aménager. VIM, c'est Villa Métropole, puisque c'est juste à côté d'un ensemble qui a eu un prix Agora d'architecture d'ailleurs et qui s'appelle Échoppe, parce qu'on avait l'ambition de refaire une séquence de petites maisons très denses, hein, sur le modèle de l'Échoppe, puisque le Bordelais adore l'Échoppe. Hein, on s'est dit, ben, tant qu'à faire, essayons d'être modernes avec eux à nouveau et faisons donc Échoppe. D'ailleurs, Échoppe, et vous l'avez en photo aussi, hein, dans la revue. Ces gens ont vraiment de très bon goût. Hein. Ils ne se trompent pas, ils savent bien choisir les bonnes affaires. Et vous verrez que VIM, donc Villa Métropole, c'est le nom d'une maison industrielle fabriquée par Jean Prouvé dans l'est de la France. Et j'ai repris ce nom parce qu'il avait déjà tout inventé avec la Villa Domino de Le Corbusier. Et on a repris ce principe, comme vous avez à Pessac avec la cité Frugès, des maisons sur pilotis. Il me semble quand même que ce n'était pas très compliqué que de se dire, là où il y a de l'eau, bah faisons des pilotis. Voilà. Soyons assez simplistes, on va dire. Et disons, la meilleure réponse, c'est ça. Et alors, l'intérêt de la chose, c'est qu'en faisant une maison sur pilotis, alors au début, on a travaillé avec la ville de Bordeaux à R+1, puisqu'il fallait, c'est la deuxième séquence de l'échoppe qui était à R+1 à côté, à la Benauche. Et puis on a osé, et c'est vrai que là, on a culturellement été un peu provocant, on a osé aller jusqu'à R+2. Mm-hmm. Bon, parce que le pilotis, ça vous enlève un étage quand même. Hein. Donc, on s'est dit, il faut le rattraper. Donc, une double échoppe ou une échoppe double. Donc, deux niveaux. Et puis, quand on l'a présenté à Fortier, qui est l'architecte conseil de la ville de Bordeaux, on avait prévu avec notre maquette un troisième petit étage, mais qu'on avait mis à côté sur la table. Et en fait, il s'est amusé avec la maquette et puis il a pris le troisième étage. Il a dit, wow, c'est super bien comme ça. C'est encore plus beau. Et donc, on a dit, ben, OK, on fait R+3 grâce à Bruno Fortier. C'était assez... Parce qu'il a été complètement séduit par cette approche de dire, dans le fond, est-ce qu'on peut être dans des conditions qu'on pourrait et qu'on dit être normalement avec le PPRI à la Benauche, je ne peux pas construire avant 2017. Hein, c'est interdit. Et là, on a l'autorisation de construire parce qu'on est sur pilotis. Et donc, on a expliqué qu'est-ce que c'était que cette amabilité de travailler sur un site où l'eau est présente. Et on a fait, vous verrez, quand on fera l'inauguration de la ZAC Bassignelles, on a fait de grands panneaux avec un document d'explication. et on dit, en fait, on vient sur l'eau, Bastignelles. Bastignelles, c'est des îles. La Benauche, c'est pareil. Quand on regarde les cartes de l'époque, du XVIe, XVIIe siècle, ce sont des méandres d'eau, c'est l'eau qui ruisselle des coteaux, et c'est le fleuve qui remonte, quoi. On est tout le temps dans l'eau. Alors, au lieu de se dire que je ne peux plus construire parce qu'il faut attendre une élévation de digues et qui vont coûter très cher, on peut construire pas très cher, puisque c'est du logement social, à cet endroit-là, en étant en grande amabilité avec le fleuve. C'est-à-dire que nous, on est prêt à le recevoir, ce fleuve. Alors, on n'aimerait pas qu'il monte, parce qu'on a d'autres opérations qui ont été construites des décennies avant et qui, là, seraient sous l'eau. Et nos habitants et les autres aussi seraient sous la flotte. Donc, on ne voudrait pas que le fleuve viennent quand même nous tutoyer de trop près, mais il n'empêche. Alors, il y a une autre lanière qu'on évoque aussi sur ce site, qui est juste en prolongement de l'Institut de gestion, qui est l'ancienne et très ancienne cité Paul Boncour. C'était une des premières cités de Douels et de Marquet, et qu'on va démolir parce qu'elle n'a plus de qualité. Pour le coup, il n'y avait pas de qualité architecturale. Et là, on va essayer de faire une opération assez importante, puisqu'on veut faire plus d'une centaine de logements. Et on va essayer de démontrer qu'on peut faire quelque chose de complètement novateur avec l'eau en ce lieu-là. Parce que là aussi, hein, sur Paul Boncour, vous êtes à côté du jardin botanique, et il ne vous a pas échappé que le jardin botanique, il y a des pièces d'eau importantes, parce que l'élément important, il est là, quoi, hein. Et donc, on va essayer de faire un ensemble extrêmement important avec ça. Et je pense que c'est ça, la modernité d'aujourd'hui. C'est de savoir, juste pour conclure, ce qui est assez étonnant, la modernité, pour moi, serait d'être capable de faire comme les premiers habitants qui sont venus s'installer il y a très longtemps au Néolithique, au bord de ce fleuve. Les premiers établissements humains, ils ont vécu grâce au fleuve. Nous, on l'a un peu ignoré, on l'a un peu perdu de vue. Alors, on l'a retrouvé avec Michel Corajou et Alain Juppé, oui, sur le travail du quai. Hein. Mais il n'empêche qu'on l'a perdu dans ce que j'appelle l'amabilité du quotidien. C'est-à-dire qu'il est là, l'eau est présente. Et les premiers Bordelais installés sur les rives de Garonne, là, ils étaient là parce qu'il y avait l'eau. C'était un principe de vie. Et donc, il faut que ça redevienne pour nous, aménageurs, constructeurs, un principe de vie aussi.
Bon, vous voyez la richesse du dossier. Je vous invite à, hein, comme le fait si bien Bernard Blanc, en effet. Bon.
Je sais pas si la ligne, il y a un très bon article aussi sur la cité Pinson dans le Cambon.
En effet, il y a un très bel article sur la cité Pinson.
Dans le Cambon, qui est très intéressant.
Prends la parole, Benoît, puisque c'est à ton tour. On va rester rive droite, puisque... Que se passe-t-il dans la ZAC Bastignelle? Que se passera-t-il?
Alors, la ZAC Bastignelles, donc, étonnamment, on la connaît presque déjà sous le nom de Darwin, parce que c'est un peu la porte d'entrée de cette vaste friche industrielle. En réalité, donc, moi, j'ai eu la chance de la visiter. Donc, ça fait 34 hectares, pardon, et Darwin, c'est juste un petit hectare. Et en fait, donc, elle est fermée au public, donc, ce qui explique qu'évidemment, elle ne peut pas se visiter. Et c'est un territoire, on a eu la chance de visiter avec le photographe, assez étonnant parce que, c'est... des anciens bâtiments militaires et avant même qui étaient liés au commerce du fleuve. Hein. On a parlé de l'eau, là, de la Garonne était toute proche. Et surtout, il y avait le développement du chemin de fer à ce niveau-là. Donc, toutes les infrastructures ferroviaires étaient sur ce qui fait aujourd'hui la parcelle. Et on imagine difficilement, enfin, on se projette, hein, puisque effectivement, ça démarre, mais ça va s'étaler sur plusieurs années, hein, sur plusieurs, même une vingtaine d'années. 17 ans, voilà, et si le timing est bon. Et en tout cas, on imagine mal que ça va devenir un des cœurs du développement urbain et architectural aussi de la métropole, avec, comme c'est le cas du côté atlantique ou du côté des bassins à flots. Bastignelles, c'est une projection, je crois, si je ne me trompe pas, à 10 000 habitants supplémentaires dans Bordeaux. 3 000 ou 4 000 logements avec une forte proportion de logements sociaux. Donc, c'est quand même des thèmes assez forts et des chiffres assez forts qui sont portés là.
Et ça revient souvent dans ton article, d'ailleurs. Il y a cette, est très prégnante, la notion d'étalement urbain, faire la ville sans s'étaler. Enfin, tu y reviens souvent.
Oui, parce qu'en fait, on est quand même dans la ville. Enfin, on est sur la rive droite de la Garonne. On est encore une fois, une parcelle qui est assez vaste. Et l'idée, c'est effectivement qu'on recrée du centre, enfin autour du centre ou à l'intérieur du centre, voilà, je ne sais pas comment on peut, l'exprimer. Et il y a une forte dimension de patrimoine, puisque c'est un patrimoine industriel, pour le résumer. Il y a du bâti qui est bien conservé, qui date de la deuxième moitié du 19e. Et en même temps, il y a une forte projection, donc très contemporaine. On a parlé un peu d'architecture. Puisqu'en fait, la ZAC, donc plus de 30 hectares, vont être confiés à un architecte contemporain international qui s'appelle Winnie Maas, qui va en être le chef d'orchestre, en tout cas dans les grands principes qui sont déjà connus. Et après, les différents îlots, donc il y a 130 îlots, je crois, qui vont être confiés à des architectes différents. Moi, je me souviens, j'ai vu la présentation de, c'était pas Winnie Maas, mais un de ses confrères à Bordeaux. Voilà, c'était une séance publique. C'était intéressant de voir les partis pris qu'ils ont. Il y a des formes qui sont quand même assez... peut-être pas radical, mais enfin, en tout cas, il y a des principes qui sont très contemporains.
Il faut qu'on puisse y vivre.
Hein. Il faut qu'on puisse y vivre. Il y a un principe de densité aussi qui fait toujours un petit peu peur à Bordeaux comme ailleurs, donc qui va être aussi présent. Et en même temps, il y a des espaces de verdure intégrés. Il y a des parkings qui seront dans des silos, dans des formes de silos.
Les voitures seront invisibles, je crois.
Oui, il y a des choses qu'ils ont expérimentées aux Pays-Bas qui sont des parkings en fait en étage avec des enchevêtrés, enfin mixés entre des bureaux, des habitations, des parkings. Donc ça permet effectivement d'avoir une voirie qui sera assez étroite, des rues petites, des endroits avec des places. Donc l'idée, c'est d'avoir de la densité et en même temps une vraie vie de quartier, etc., avec des équipements. Bon, voilà. Et sur ce territoire, donc, qui n'est pas ouvert au public encore et qui est tagué, enfin voilà, nous, quand on l'a visité, il y avait des jeunes qui étaient en train de faire des photos. Enfin, c'était vraiment un peu le côté jardin interdit. C'était très sympa. D'ailleurs, c'est de ce genre d'endroit qui manque encore un peu à Bordeaux et qui reste finalement. Et à côté de ça, donc, on connaît tous pour la plupart quasiment maintenant Darwin qui a un peu explosé à l'entrée côté fleuve.
Darwin donne le là d'une certaine façon.
Alors Darwin n'est pas dans la ZAC, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. En fait, ça a été... Alors la ZAC, effectivement, c'est des choses qui sont très organisées sur une durée qui est assez longue, etc. Et donc Darwin a été... ses hectares a été vendu par... Donc ça appartenait à Réseau Ferré de France, puis après la Cube... à racheter et vendu, je ne me souviens plus exactement de tous les mécanismes, enfin en gros c'est ça. Et Darwin, donc, c'était un groupe privé derrière, dans la communication, qui a un rayonnement un peu plus large aujourd'hui, et qui a voulu monter un projet à la fois économique, mais aussi lié aux économies qu'on appelle aujourd'hui créatives, toutes les structures associatives, il y a un skatepark, enfin voilà, il y a une espèce de fourmillement comme ça d'initiatives diverses et variées dans des bâtiments, réhabilité par des architectes bordelais, en tout cas pour les deux grands bâtiments où il y a les espaces de travail, hein, puisqu'aujourd'hui, Darwin, il y a 300 ou 400 personnes tous les jours qui viennent y travailler. Et donc ce sont des anciens, alors c'est pas forcément militaire au départ, mais en tout cas c'est comme des anciens entrepôts en maçonnerie, donc voilà, c'est très, très volumineux, très, très massif. Et ce qui est quand même très intéressant, bon, alors les gens de Darwin disent que ça n'existait pas avant à Bordeaux, qu'ils l'ont un peu amené en s'inspirant de Berlin ou de Nantes, des choses comme ça. C'est le côté friche vivante, effectivement, c'est la porte d'entrée. Et on y travaille, on partage des espaces. Bon, il y a du bio, il y a un restaurant, donc il y a tous les trucs tendance, comme on dit, un peu bobo même, comme on dit. Il y a même de l'habitat modulaire qui est caché dans le back-office un peu. Donc c'est vraiment... c'est une espèce de millimélo comme ça qui est assez sympathique quand même. Et c'est vrai que ça donne une... En tout cas, je ne sais pas si ça donnera le là du reste, parce que derrière, la ZAC, c'est une autre ambition.
Vous dites non.
C'est pas possible en fait, même c'est ce qu'on se dit. Alors évidemment, ça fait un peu peur aux gens, la densité. Donc les riverains, moi je me souviens, la séance publique était là. Même les gens de Darwin, bon, ils disent un peu, ouais, mais si c'est pour faire justement comme à Ginkgo, donc tout le monde bataille un peu dans son coin pour dire la densité, ça fait peur. Ouais. En même temps, on peut pas tellement imaginer d'organiser ce morceau de ville qui deviendrait vraiment un immense quartier quand même, faut le dire, avec les problématiques qu'on a évoquées, les inondations, etc. Dans l'esprit de Darwin, je ne crois pas que ce soit possible. Donc c'est un côté sympa.
Oui, c'est un côté sympa,
mais je crois qu'après, bon, il y a pas mal de choses qui sont un peu hors normes. Et voilà. Et après, c'est effectivement la planification de tout un morceau de ville. Il y a un autre bâtiment que moi je trouve très intéressant, qui est celui le nouveau bâtiment des archives municipales, qui est à l'opposé en fait de la parcelle, côté avenue Thiers, côté chemin de fer, qui était une ancienne halle en dur aussi, qui avait brûlé quasiment complètement. Il restait que les quatre murs et qui a été reconverti par les architectes belges, là, qui sont un peu des spécialistes de la reconversion de bâtiments industriels. Et qui est en train de devenir le premier gros équipement, lui aussi hors de la ZAC, parce que voilà, il y a des mécanismes après administratifs et autres qui ont fait que ces deux projets sont nés un peu, mais parce qu'ils sont déjà dans la continuité de l'esprit d'un futur écoquartier. Moi, ce que je trouve intéressant, par rapport au numéro et par rapport à cette rencontre aujourd'hui, c'est que ces nouvelles formes de la ville, elles expriment des nouvelles formes de mode de vie, de mode de travail. Typiquement, Darwin, c'est ça, de l'espace partagé, des sensibilités qui se croisent. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant quand voilà, c'est de l'urbanisme, c'est de l'architecture. Derrière la ZAC, elle donnera ce qu'elle donnera. Mais en tout cas, il y a déjà cette dimension-là. Et voilà, la ville, elle change. Il y a des nouveaux habitants chaque année, etc. Quoi.
Merci, Benoît. Bon, pour des questions de temps, je vous invite à lire son deuxième article consacré au musée de la création franche à Bègles, dont nous avions prévu de toucher quelques mots, puisque c'est un équipement assez unique hein, en France, qui a aussi participé au façonnement de la métropole bordelaise. Consultez l'article, lisez-le, il est aussi très bien écrit, très rigoureux.
C'est les 25 ans du musée de la création franche, voilà. Qui est un musée d'art brut à Bègles, une petite commune, et qui est un patrimoine tout à fait étonnant, puisqu'il y a 400 artistes et pratiquement 14 000 œuvres dédiées à l'art brut, c'est-à-dire l'art un peu des marginaux, et qui va certainement évoluer aussi dans les années à venir, et sera peut-être un des équipements ou un des futurs musées de la métropole. En tout cas, c'est un endroit tout à fait passionnant et qui est encore un peu dans son jus et qui est à découvrir. Voici c'est pas très connu d'ailleurs à Bordeaux.
L'art brut, lisez-le. Je vais passer à Marc Saboya pour un pas de côté et rentrer un peu dans le vif de l'architecture, puisque nous parlons ici d'une réalisation privée, mais qui investit le champ public, puisque très rapidement après son érection en 1998, la maison Lemoine a été inscrite à l'inventaire supplémentaire du patrimoine. Et Marc Saboya va nous en faire une visite à l'oral.
Non, ouais. c'est absolument impossible.
Oui, voilà.
C'est impossible de faire une visite comme ça, virtuelle, ou même écrite, de cette maison. Je vais expliquer pourquoi au fur et à mesure de ma présentation. Mais avant donc d'en parler, deux mots sur l'architecte et deux mots sur son client. L'architecte, bon, vous le connaissez tous, au moins de réputation, c'est Rem Koolhaas. C'est un architecte hollandais qui est né en 1944, c'est-à-dire qu'il a maintenant 70 ans. Il a une carrière gigantesque derrière lui, une formation lourde aussi. Il s'est formé à Londres, à School, etc. Il a monté une grande agence, l'agence OMA. Il se fait connaître d'emblée en 1978 par un livre qui va considérablement révolutionner la littérature d'architecture de l'époque. Et ce livre est consacré au gratte-ciel de New York et il s'intitule « Delirious New York », qui est traduit en français par je ne sais plus la traduction française déjà. New York délire peut-être. Voilà, New York délire. Voilà. Un livre étonnant qui, déjà, je dirais, révèle une personnalité dans la manière d'aborder l'architecture. On parlait tout à l'heure avec Bernard parlait tout à l'heure du postmodernisme, et effectivement, cet architecte se situe totalement à l'opposé du courant postmoderne. Il s'inscrit plutôt du côté de Deleuze, de Guattari, je dirais presque même des situationnistes. Et il revendique d'ailleurs un petit peu cette parenté avec ses philosophes et avec ses penseurs. Envisageant disons, New York sous un angle tout à fait différent, présentant chaque gratte-ciel comme une sorte de ville indépendante, il va partir de là, et j'abrège hein, sur ce livre fondamental, il va commencer à développer une architecture elle-même un peu différente. Hein. Excusez-moi, je vais vous choquer, mais enfin, son slogan pendant un moment, ça a été « Fuck the context ». Hein, c'est-à-dire, j'emmerde, enfin, pour être poli, j'emmerde le contexte. C'est-à-dire, il se situe là, effectivement, totalement en dehors de l'architecture postmoderne, qui, au contraire, s'inscrit le plus intelligemment possible, entre guillemets, intelligemment, ça aussi, ça serait à revoir, dans un ensemble, pour essayer de glisser la modernité sans trop choquer dans déjà une histoire. Rem Koolhaas, lui, se place totalement en rupture. Ça ne veut pas dire qu'il nie le contexte, pas du tout. Hein. Il en tient compte, mais il n'en tient pas compte au sens où on s'y intégrerait comme, je dirais, un camouflage militaire. Voilà. Non, au contraire, on s'y affiche, mais quand même le contexte traverse l'architecture de Rem Koolhaas. Et bien c'est le cas de la maison Le Moine, d'une certaine manière, pour enchaîner, hein, et de la plupart d'ailleurs des œuvres qu'il réalise par la suite. Il n'a réalisé que deux villas dans sa carrière, la villa Le Moine et une villa dans la banlieue parisienne, je crois, à peu près dans la même période. Mais il a réalisé, en deux mots, l'ensemble du quartier de Euralille, l'extraordinaire bibliothèque de Seattle, qui est un édifice absolument splendide, étonnant, un bâtiment étonnant aussi à Rotterdam. Tout récemment, il a inauguré un ensemble de trois tours à Rotterdam. Un édifice complètement inhabituel, avec des décalages de volume. Bon, voilà. Je vous dis, fuck ce contexte, c'est sa maxime. Ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas compte du contexte. Voilà. Alors, la maison Le Moine, donc, c'est ça. Hein. En deux mots, cette maison, elle a été construite à partir de 1900 ou achevée en 78, je pense. Vous le savez, vous connaissez l'histoire, mais je le rappelle rapidement, pour le directeur du journal Sud-Ouest, qui est victime d'un accident de voiture très grave et est resté tétraplégique. Voilà. Et donc, cette maison, au départ, est destinée à un homme qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant, hein, et qui lui-même a demandé à Rem Koolhaas une maison complexe. Parce qu'il dit, lui-même, cette maison ne doit pas être simple. Il faut qu'elle soit complexe parce qu'elle doit définir ce que sera désormais mon univers. Voilà. C'est-à-dire que l'enfermement qui est celui de cet homme dans sa paralysie doit avoir un échappatoire dans une maison qui permet des ouvertures, qui permet des surprises, qui permet à ce corps immobile de pouvoir exprimer une forme de liberté. Voilà. Et alors la maison, effectivement, se situe comme ça. C'est pour ça que je dis qu'elle est impossible à voir, elle est impossible à décrire, elle est impossible à comprendre si on ne l'est pas devant. Aucune image, aucun plan que vous pourrez voir, que vous pourrez lire, aucun texte, même d'ailleurs et le mien aussi, hein, ne rend compte de la réalité de cette maison. C'est-à-dire qu'elle est totalement hétérogène, contradictoire, complexe, hein, et elle est complètement en dehors de la, je dirais, de l'image que l'on se fait de la maison. Et on peut même dire qu'elle n'a pas d'image. Hein. On chercherait dans une maison quelque chose qui ressemble à une maison. Même avec un toit plat, ça ressemble à une maison. Salier faisait des maisons et des toits plats. Hein. Mais là, c'est autre chose. Hein. C'est, je crois que peut-être le film de Louise Lemoine, qui est la fille de Jean-François Lemoine, le rend très bien. Hein. Louise Lemoine a filmé la maison à travers ses inconvénients, à travers sa complexité, la femme de ménage qui n'arrive pas à faire le ménage, hein, dans cet ensemble, les fuites d'eau partout, les escaliers qui sont des espaces dangereux, meurtriers. Voilà, si vous voulez, c'est cette maison. Alors comment en parler, si vous voulez? C'est ce que je tente d'essayer de faire un discours différent, parce qu'elle a été archi décrite. Vous comprenez bien que tous les journalistes se sont emparés de cet édifice qui est très vite récompensé par l'écart d'argent, qui est très vite inscrit aux monuments historiques, ce qui est une rareté. Comment en parler? Mais moi, si vous voulez, j'en parle simplement en essayant de voir, d'une part, la complexité qu'elle représente, hein, complexité dans le et opposition dans le choix des matériaux, jeu sur l'aisance et la difficulté, travail technique absolument extraordinaire d'un ingénieur qui s'appelle Balmont, qui la suspend dans les airs quasiment, hein, l'instabilité, je dis. J'ai ajouté l'intranquillité, pour reprendre le mot devenu célèbre depuis Pessoa, et que Jean Nouvel lui-même reprend sans cesse, hein, très à la mode. L'intranquillité que la maison elle-même produit quand on la voit, c'est-à-dire on a une cage de verre, il y a un énorme bloc de béton au-dessus. Vous voyez, tout cela fait un ensemble qui, véritablement, est à la fois émouvant, dramatique et questionne. Hein. Questionne, alors revenons au contexte là-dessus. Non, effectivement, l'architecte ne s'est pas amusé à inscrire une chaumière sur une colline au milieu des bois. Effectivement, il n'a pas non plus, comme l'aurait fait Salier, voulu jouer avec les limites difficiles à cerner entre le dehors et le dedans. Si, il le fait. Mais il le fait. Quand il le fait, c'est le salon. Effectivement, dans le salon tout en verre, on ne sait plus où est l'extérieur et l'intérieur. On est perdu. Mais par-dessus de tout cela, hein, au-dessus de cette transparence et de cette légèreté et de ce côté cristallin, finalement, des murs de ce salon, il pose le bloc de béton qui appuie, qui pèse, hein, qui indique qu'il y a autre chose dans cet édifice que la clarté, que la transparence, que la nature, qu'il y a aussi de la technique, qu'il y a aussi une force, un poids là-dessus, et qu'il y a effectivement une difficulté. Hein. C'est une maison difficile. Voilà. Alors, pour aller très vite et pour en terminer, je dirais que cette maison qui ne se visite pas, bien entendu, parce qu'elle est privée, mais qui est une maison habitée, est une maison qui ne ressemble à rien. Hein, voilà. C'est une maison qui, contrairement à toute la modernité qui était celle des architectes de la soi-disant école de Bordeaux, Salier, Courtois, Lajus, hein, Sadirac, cette grande école extraordinaire, ils ont rénové la maison, mais ils ont continué à faire des maisons. Voyez, des espaces ouverts ou fermés, il y a des murs, il y a des pièces, malgré le plan libre, il y a quelque chose qui ressemble à une maison. Ça ne ressemble pas à une maison. C'est un édifice qui est en rupture complète par rapport à l'image traditionnelle et même par rapport à l'image moderne, hein, de l'édifice. C'est un bâtiment qui, en deux mots, est quasiment impossible. Hein, est impossible. Possible à vivre pour cet homme qui se déplaçait, et ça c'est la grande trouvaille, si vous voulez, de Rem Koolhaas, et c'est là-dessus que je vais terminer. Rem Koolhaas un petit peu a construit sa maison comme une sorte d'histoire de l'architecture, hein. Le sous-sol s'inscrit dans la colline. Il y a d'ailleurs une cuisine et un escalier en forme de grotte. Au-dessus, primitif. On est dans la modernité, celle à laquelle on croyait dans les années 60, 70, voire 80, c'est-à-dire la maison transparente. Et par-dessus tout cela, on est dans la grande technologie, celle qui permet de suspendre, hein, un bloc de béton énorme au-dessus d'un mur de verre sans que tout cela s'écrase. Voilà. Donc, au milieu de tout ça, si vous voulez, il y a l'espace de déambulation de M. Lemoine et cette étonnante plateforme qui lui permettait de partir de la cave à vin, qu'il montait avec son fauteuil tout le long d'une paroi, hein, qu'il amenait au salon, qu'il amenait ensuite à sa chambre, et les parois donc de cet élévateur, en quelque sorte, qui agrandit les pièces ou qui réduit les pièces, qui fait jouer la lumière, hein, en montant ou en descendant. Ces parois étaient couvertes de livres, c'était sa bibliothèque. Voilà. C'est difficile d'expliquer ce système-là. Hein. Je sais que je n'arrive pas véritablement. Il faut le voir.
C'est, hein, difficile à montrer, voilà, en photographie également. Hein.
On peut faire de belles photos. Ouais. Il faut voir surtout le film de Louise Lemoine, hein, avec la femme de ménage qui monte avec son seau et sa serpillière le long de cette grande plateforme et qui essaie de faire du nettoyage dans une maison où effectivement tout est en hétérogénéité et en contradiction. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un édifice absolument splendide.
Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup à tous.
Ah, mais merci.
Il est temps de déguster du Béchevel, si vous le voulez bien. Et...
Comment, madame ? Ça s'achète. C'est une cassette. Alors, Louise Lemoine s'est spécialisée avec un cinéaste.
Site internet, vous pouvez aller voir, il y a tous ces films, voilà, qui sont référencés.
Des films qui représentent des édifices qui sont, dans leur manière de les faire vivre, hein, dans une vie qu'on n'attend pas d'eux, en principe. Voilà.
Cette rencontre était la dernière de la soirée, mais il y en a une toute dernière, pardonnez-moi un instant. Demain, nous organisons une rencontre à 15h30 ici même autour de la revue le festin, le cœur de la maison d'édition, le numéro 92, spécial gastronomie, où nous invitons, et j'animerai moi-même aussi cette rencontre, à cette table, Joël Dupuche, l'ostréiculteur, Bruno Oliver, le restaurateur, le dessinateur Alfred, et une journaliste, Ariane Puccini. voilà, merci beaucoup.